La Belgique s'apprête le 1er janvier à assumer la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne à la suite de l'Espagne. Notre invité aujourd'hui est Frédéric Chardon, journaliste politique à La Libre. Frédéric Chardon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un article publié hier dans La Libre, La présidence belge va peut-être aider De Croo à combattre la NVA. Alors pour commencer, Frédéric Chardon, comment le contexte politique au sein de l'Union européenne et les relations avec d'autres États membres est-il susceptible d'influencer la capacité du Premier ministre à affronter la NVA pendant ces 6 mois?
En fait, c'est le rôle international que Alexander De Croo va revêtir pendant les 6 prochains mois, qui va probablement qui pourrait l'aider à affermir sa stature internationale. Et en cela, il enverra un message belgo-belge, un message politique, alors qu'on vote le 9 juin en Belgique à presque tous les niveaux de pouvoir. Il pourra dire, regardez, moi je suis le Premier ministre d'un gouvernement fédéral compliqué. Dans l'opposition fédérale, il y a l'NVA, les nationalistes flamands, qui nous critiquent, qui me critiquent systématiquement. Eh bien moi, j'assume mes responsabilités. Je fais progresser l'Europe, en tout cas j'essaie de la faire progresser, et je travaille à l'international à affermir la prospérité de la Belgique en faisant rayonner tout simplement notre pays. Donc il essaye, cette présidence va lui permettre de faire passer un message beaucoup plus constructif en termes de gestion de l'État par rapport à une NVA qui critique volontiers et qui est plutôt dans l'attaque systématique de tout ce qui est belge. Donc il y a vraiment un contre-discours en fait que les libéraux flamands, l'Open-Velde, le parti du Premier ministre, pourront opposer à la NVA, le parti de Bart De Wever.
Et donc justement, quels sont les principaux objectifs ou initiatives que le gouvernement belge envisage de promouvoir pendant cette présidence?
Les grandes priorités de la Belgique, c'est notamment l'industrialisation de l'Europe. Donc, il y a vraiment les grandes lignes, le développement durable. Donc, c'est les grandes lignes traditionnelles de l'Union européenne. Donc, la Belgique n'a pas pour tradition, d'arriver dans le jeu européen en provoquant une rupture, hein. Donc, la Belgique, c'est un pays fondateur de l'Union européenne. C'est un pays qui a toujours eu un rôle plus important au niveau diplomatique que la taille, du pays, ne le laissait présager. Donc, de toute façon, il y aura une continuité forte pour la Belgique par rapport au dossier européen. Il n'y aura pas de rupture, ça c'est clair. Et Alexander De Croo aura un rôle important à jouer parce que lorsqu'un pays a la présidence du Conseil de l'Union européenne, il a un rôle important dans la prise d'initiative, l'agenda, les réunions, le choix des sujets que l'on débat par rapport aux énormes enjeux, surtout géopolitiques, qui se posent, auxquels la Belgique diplomatiquement va contribuer. Surtout qu'après la présidence belge, viendra le temps d'une présidence. Une présidence de la Hongrie. Donc, la Hongrie, vous le savez, avec Orban qui est plutôt. Donc, il y aura quand même des garanties. Il y aura un travail important que la Belgique devra faire aussi pour prévenir ce qui pourrait arriver par la suite.
Et s'agissant du conflit et de la gestion du conflit entre Israël et le Hamas,
Alors, ça aussi, c'est effectivement, c'est un enjeu très important qui pourrait fracturer l'Union européenne, qui pourrait même fracturer même en Belgique. Hein, on voit qu'il y a des points de vue différents qui ont été exprimés, des solidarités différentes qui s'expriment. Par rapport à cela, bon, à nouveau, la Belgique restera sur sa ligne au niveau diplomatique, mais ça, c'est vraiment au niveau belge. La Belgique appelle un cessez-le-feu humanitaire, donc la nuance est importante. C'est pas un cessez-le-feu unilatéral, bien entendu. C'est un cessez-le-feu humanitaire dans l'attente, enfin, qui permettrait à la population palestinienne d'obtenir le plus de secours possible en attendant quelque chose, mais sans imposer à Israël, bien entendu, de devoir arrêter toute opération militaire dans le temps et sans que Israël puisse, dans le temps, garantir sa propre sécurité en terminant le travail, en éliminant définitivement le Hamas de la bande de Gaza. Donc, c'est une position assez qui relève d'un consensus, d'un compromis. Une position assez prudente également. Et donc la Belgique au niveau européen bah, défendra exactement la même ligne. Bon, ça, je n'ai pas les confidences des diplomates belges. Je ne sais pas on ne sait pas non plus comment ça va évoluer effectivement. Donc c'est le conflit dans la bande de Gaza va évoluer. Donc la Belgique de toute façon et l'Union européenne s'adapteront au fur et à mesure de la situation sur le terrain. Si je reviens à la position diplomatique de la Belgique depuis le début du conflit, elle-même, la Belgique a évolué. Je me souviens quelques jours après le 7 octobre, j'avais interrogé Alexander De Croo dans La Libre, et naturellement, à ce moment-là, il était dans l'empathie totale avec la souffrance des Israéliens et les abominations qui avaient été commises. Et puis, Les jours passant, il a dû nuancer sa position, bien entendu, quand on a vu que la riposte était de l'armée israélienne était particulièrement dure. À ce moment-là, il a légèrement, Alexandre Ducrot a légèrement infléchi sa position en disant attention aussi à préserver le plus possible la population palestinienne innocente, les civils palestiniens dans cette réponse militaire. Vous vous souvenez aussi que lors d'un déplacement, justement dans le cadre de la future présidence européenne, un déplacement en Israël, Alexander De Croo avait également provoqué une polémique, je crois involontairement, alors qu'il était en Israël, qu'il venait de rencontrer Netanyahou. Il avait dit quelques heures après cette rencontre que Israël devait faire encore plus d'efforts pour protéger la vie des civils Gazaouis. Bon, beaucoup de gens en Israël avaient trouvé que c'était quand même un peu inconvenant de venir faire des leçons de morale alors que le Premier ministre était en déplacement en Israël. C'était peut-être pas le bon moment pour rappeler cela. Il avait peut-être manqué de tact. Peut-être qu'il avait voulu aussi envoyer un message politique belge depuis Israël en voulant montrer que son parti et lui-même était dans l'empathie avec les difficultés, les souffrances qui pouvaient être celles de la population palestinienne. Donc peut-être qu'il y a aussi un enjeu belgo-belge caché derrière les expressions internationales, les expressions diplomatiques. Hein. Bien entendu, il y a toujours les deux en fait. Hein. Lorsqu'un mandataire politique s'exprime sur un sujet international, il envoie un message en ce qui concerne la situation sur place, donc en l'occurrence la bande de Gaza, Israël. Et puis il y a aussi un message codé, un peu subliminal, par rapport à des enjeux politiques nationaux en Belgique.
Et justement, est-ce que vous pensez que la tradition du compromis à la belge, voilà, impactait favorablement, en fait, cette présidence?
Ben, ça certainement. De toute façon, la Belgique, comme je le disais tout à l'heure, elle a une tradition europhile profonde. Les diplomates belges sont très appréciés pour leur sens du compromis. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours au niveau institutionnel belge. Des compromis, c'est notre manière de fonctionner. Donc, il est certain que la Belgique peut apporter une expertise par rapport à ça et aider à l'émergence d'un consensus, ou en tout cas à maintenir un consensus au niveau européen. Ça, c'est certain. Par ailleurs, la Belgique a un avantage, c'est qu'elle a un petit pays. Et comme petit pays, elle a une position d'État tampon, une position privilégiée pour justement amener les grands pays à s'entendre. Ça ne va peut-être pas changer la face du monde non plus. On est quand même dans des rouages institutionnels de l'eurocratie au pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas non plus.
Vous expliquez également dans votre article que la NVA souhaite voir adopter une approche qualitative et non quantitative. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Alexander De Croo et son entourage savent très bien que la NVA n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir dire que Alexander De Croo est tellement absorbé par son agenda international de Premier ministre, et ça va être renforcé par la présidence belge de l'Union européenne, qu'il n'a plus le temps de s'occuper des problèmes des Belges et des Flamands en particulier, et que Alexander De Croo est surtout préoccupé de se recaser dans quelques mois à l'international, à un poste prestigieux quelconque dont on ignore encore la nature. Et donc ça, c'est une petite musique que la NVA fait monter depuis quand même depuis 2020, depuis la mise en place du gouvernement De Croo. Et l'entourage, les communicants, les spécialistes de la communication qui entourent Alexandre De Croo savent très bien que la NVA n'attend que ça, n'attend que, faut pas, donc il faut pas lui tendre le bâton pour se faire battre. Et donc Alexandre De Croo et son entourage vont veiller à ne pas se laisser envahir par cet agenda européen dans les 6 prochains mois et permettre aussi à Alexandre De Croo de montrer qu'il est le Premier ministre de la Belgique, qu'il a une prise sur la vie politique belge, qu'il a fait de bonnes choses, qu'il va continuer à en faire et son entourage va aussi lui permettre de mener aussi une campagne électorale en vue des élections belges, celle-là du 9 juin, et également européenne, mais enfin il y a aussi un enjeu fédéral et régional au niveau électoral le 9 juin. Et d'autant plus que son parti politique, l'OpenVLD, est dans une situation vraiment dramatique sur le plan des sondages d'opinion. C'est le dernier parti flamand. Ils sont autour de 6, 7, 8% d'intention de vote. On est très loin de ce que les libéraux flamands ont pu représenter par le passé dans la politique belge. Et aidé par sa stature, son propre parti à survivre aux prochaines élections. Parce que, comme on parlait de la NVA n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir croquer ce qui reste de l'OpenVLD et absorber ses électeurs pour faire disparaître en fait l'OpenVLD à terme. La présidence peut être une opportunité, mais à nouveau, il ne faut pas faut pas surévaluer non plus ce rôle. C'est sûr qu'il va être mis dans la lumière, il va avoir une statue, un rôle international qui pourrait l'aider à briller un peu sous la lumière des médias. Mais voilà, moi je reste quand même très très prudent parce qu'il n'est pas certain que les citoyens belges ou les citoyens flamands, les électeurs flamands, soient non plus passionnés par la vie institutionnelle européenne. Je suis même plutôt persuadé du contraire. Et donc, est-ce que ça suffira? Je crois que non. Je crois quand même que justement, les libéraux flamands, l'Open Velde et Alexandre De Croo doivent veiller à rappeler systématiquement qu'ils ont un projet belgo-belge, un projet flamand en matière de sécurité, de fiscalité, enfin les grands thèmes classiques des élections. Et c'est comme ça qu'ils remporteront les élections. Donc, je ne crois pas que les Flamands vont surtout se laisser subjuguer par le prestige international du rôle européen qui va jouer Alexander De Croo pour voter pour. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. D'autant plus que Alexander De Croo se fait critiquer très violemment par la N-VA, on en a parlé, mais aussi par le Vlaams Belang, l'extrême droite flamande, qui n'est jamais la dernière pour détruire tout ce qui tous les responsables politiques au pouvoir.
Eh bien, Frédéric Chardon, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes journaliste politique à La Libre.
Merci, avec plaisir.